Bonjour et bienvenue sur le podcast Entrepreneuriat de savoir-faire de Terre et Fils. Chez Terre et Fils, nous accompagnons au quotidien des entrepreneurs, des porteurs de projets et des collectifs qui s'engagent pour redynamiser les savoir-faire locaux au service d'un développement territorial soutenable. Ce podcast, issu de nos masterclass sur l'entrepreneuriat de savoir-faire, a pour mission de donner la parole à celles et ceux qui œuvrent en faveur des savoir-faire à l'échelle de leur territoire.
Bonjour à tous, je suis Laure Lignon, directrice générale de Terre et Fils Investissement, et je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour évoquer ensemble les enjeux de la reprise d'entreprise, et notamment quand c'est une entreprise de savoir-faire. Alors, en France, il y a de nombreuses manufactures qui sont dans des situations financières assez diverses et qui cherchent aujourd'hui des repreneurs. Si l'aventure de la reprise d'entreprise est exaltante, elle est aussi semée d'embûches et les particularités liées à la structuration d'un outil de production et à la transmission des savoir-faire sont souvent assez mal connues. Et donc, pour en parler aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Sophie Salaguer, la présidente de la manufacture de Couleuvre, et Olivier Fabre, président de Maison Fabre. Et ces deux repreneurs vont, en croisant leurs regards et leurs expériences, pouvoir vous partager ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont vécu, afin que ça puisse être utile à d'autres. Pour commencer, peut-être pourriez-vous vous présenter chacun ainsi que votre entreprise, Sophie, pour commencer.
Bonjour Laure, merci, merci à tous d'être présents. Donc, je suis Sophie Salaguer, je suis présidente de la manufacture de Couleuvre. J'ai une formation un peu particulière puisque je suis historienne et historienne de l'art de formation. Mais surtout, je suis entrepreneuse depuis une dizaine d'années, un peu plus, entre 10 à 15 ans. J'ai repris la manufacture de Couleuvre il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et la manufacture de Couleuvre est donc une manufacture spécialisée dans la porcelaine et la porcelaine d'exception. C'est une petite manufacture qui est située dans l'Allier, entre Nevers et Moulins, à 3h30 de Paris, et donc dans une zone rurale assez enclavée. Et la manufacture a un patrimoine assez exceptionnel puisqu'elle date de 1789.
Et peut-être un mot, Sophie, sur pourquoi cette manufacture est née à cet endroit-là.
J'aime bien que tu poses cette question puisqu'on revient à l'histoire. On est donc dans le Bourbonnais. Pour faire de la porcelaine, il faut du kaolin et aussi du feu. Et donc, qui dit feu dit aussi du bois. Et donc, dans le Bourbonnais, on est à la fin de la carrière de kaolin qui englobe Limoges, hein, qui part de la Bretagne, Limoges, et qui finit dans le Bourbonnais. Donc, on avait des carrières, historiquement, des carrières de kaolin. Et on est en plein milieu de la forêt de Troncé. La forêt de Troncé, qui est une forêt de chênes, dont on sert d'ailleurs pour la rénovation de Notre-Dame en ce moment. Et donc, on avait du kaolin, du bois pour pouvoir faire monter nos fours en température. Donc, au XVIIIe siècle, c'est pour ça qu'on avait jusqu'à 6 manufactures dans le Bourbonnais spécialisées dans la porcelaine.
Merci beaucoup, Sophie. Olivier ?
Bonjour Laure, bonjour à tous et merci de me proposer ce masterclass aujourd'hui avec vous tous. Voilà, donc je m'appelle Olivier Fabre, je suis maître gantier à Millau. Millau, c'est dans l'Aveyron, dans le sud de la France. Et donc, j'ai débuté il y a 25 ans comme maître gantier. Donc, j'ai appris, bien entendu, les aléas du métier pour commencer, la coupe essentiellement, le toucher de la peau, comprendre une matière naturelle. Et cette transmission, en fait, elle a été familiale et elle s'est passée de génération en génération. Et aujourd'hui, je dirige, je préside donc Maison Fabre, toujours avec la même passion. Alors, une entreprise de savoir-faire traditionnel, dans une ville où toute l'histoire a été vraiment sur l'agropastoralisme, les matières naturelles et la ganterie, mais je parle depuis 1000 ans. Alors, la ganterie, c'est plutôt depuis le XVIIe siècle, hein, c'est un peu plus récent. Mais voilà, au cœur de ce berceau, on va dire, de ganterie française, notre entreprise aujourd'hui continue. Quand mon arrière-grand-père avait créé l'entreprise, il y avait 67 ganteries à Millau en 1924. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 5. Donc, du coup, on est très fiers. Quand je dis on, c'est mon frère et ma famille qui est toujours présente, hein, enfin, pas dans l'entreprise, mais en tout cas qui nous suit de près. Et je travaille aujourd'hui avec mon frère Jean-Marc. Et on est très fiers, bien sûr, de perpétuer cette tradition tout en innovant et en essayant de faire que on suit à la fois les marchés et puis on travaille aussi dans une économie circulaire liée à notre territoire. Voilà, donc du coup, très attaché à tout ce travail. Que vous dire que j'avais fait une formation de journalisme. Donc en fait, je n'étais pas du tout sur l'intention de rentrer dans l'entreprise familiale. Mais les aléas dans l'entreprise ont vraiment amené la notion d'une reprise, puisque nous avons dû fermer en 1995. Et moi, j'ai repris en 1998 une entreprise qui était vide, avec ses machines, mais sans personnel, avec des savoir-faire qui étaient restés dans la ville, mais qui étaient plutôt chez des personnes qui attendaient qu'une chose, c'est qu'on les rembauche. Et c'est ce que nous avons fait pas à pas, humblement, et pour faire de notre patrimoine vivant un patrimoine toujours existant. Voilà. Donc du coup, je serais ravi de vous expliquer tout ça, mais vous aurez bien compris que notre entreprise est remplie d'émotions, de sensibilité et bien sûr de technique, parce que n'est pas Gantier qui veut.
Merci Olivier, mais d'ailleurs ça fait une excellente transition avec le point que j'avais envie d'aborder avec vous ensuite, qui est peut-être que vous puissiez nous partager, nous raconter dans quelles conditions vous avez été amené à reprendre l'entreprise que vous dirigez aujourd'hui. Et voilà le chemin que vous avez parcouru, Olivier.
Alors, ben écoutez, moi, alors dans ma famille, tout le monde est gantier, hein, sauf ma mère qui est enseignante. Et ma mère en avait un petit peu marre du gant. Donc, elle m'avait dit, on est trois garçons. Elle m'avait dit, j'espère que vous n'allez pas aller dans la ganterie. Et les trois, ils sont allés. Mais finalement, un est parti. Et donc, le démarrage, moi, je faisais Sciences Po à Toulouse. Et j'ai arrêté mes études parce que je me rendais compte des difficultés de reprise. J'avais bien sûr des idées. Et donc, je suis revenu sur Millau, puisque la ganterie est dans une ville qui fait 22 000 habitants, donc entourée de grands plateaux et donc une zone extrêmement rurale, même si on est à 1 heure de Montpellier. 3 heures et demie de la gare de Montpellier et Paris en TGV. Et donc, du coup, je suis revenu dans une entreprise vide. Et là, tout le monde me déconseillait, hein, mais vraiment, je n'ai aucun regret, aucun. Et donc, la première chose que j'ai faite, c'est constater un petit peu les locaux, les machines, le patrimoine, qu'est-ce qu'il restait, aller rencontrer ben, toutes ces gantières, ces gantiers, ces artisans qui étaient restés chez eux, hein, puisque ça s'était arrêté, mais qui étaient prêts, qui ne demandaient que ça, hein, qui venaient nous voir quasiment tout le temps pour dire, bon, alors, on en est où, on en est où? Et donc, après, je suis allé en voiture faire le tour de différentes grandes villes françaises, pour voir un peu qui pouvaient être nos différents clients. Et là, je suis revenu avec un constat sûr et certain, c'est qu'on ne pouvait pas continuer sur la voie classique de la ganterie pour le froid pendant l'hiver auprès de maroquiniers installés dans les zones, on va dire, piétonnes. Et ces maroquiniers, tous me disaient, voilà, nous, on a 60 ans, nos enfants veulent faire autre chose, donc les magasins, on finira par les vendre. Et c'est ce qui s'est passé. C'est devenu, des années 90 aux années 2000, 2010, les nouveaux magasins de téléphonie, etc. Enfin, tous les magasins ont disparu. Donc, on a vraiment bien fait de ne pas aller sur cette voie-là. Et je suis allé sur Paris. Et sur Paris, j'ai pensé tout de suite à la mode. Et j'ai donc démarché les boutiques de mode, les premières, hein, les plus grosses. Et d'un premier succès, ça a amené un deuxième, un troisième. Après, je suis revenu avec mes commandes et je les ai fait fabriquer à domicile. Et puis, in fine, on a participé à un premier salon en 2000, et c'était un salon lié à l'accessoire de mode. Et à partir de 2000, alors le premier salon n'était pas terrible, je dois avouer, parce qu'on avait le savoir-faire, mais on n'avait peut-être pas les idées de mode. Mais je suis allé voir, je regardais les stands qui marchaient. Hein. Et donc à partir de là, je suis allé les voir pour le prochain salon, et j'aurais dit, écoutez, vous avez du talent, vous savez, vous avez de l'idée, nous on sait fabriquer, vous inquiétez pas, on peut tout faire, et ça vous coûtera rien, on fait une collaboration. Et comme ça, j'ai signé. Je dirais une quinzaine de collaborations, alors avec des personnes qui sont devenues de très connues. Déjà certains l'étaient, comme José Lévy, Ludo Etling, Sébastien Meunier, Irina Wolkowski, Médecine Douce, Polder, etc., etc. Et tout ça a fait qu'en 2001, au salon première classe, on a vendu dans le monde entier, alors qu'on n'avait pas un client à l'étranger. Donc, ça a été une reconstruction, on va dire, de 98 à 2000. Donc, ça a pris 2 ans pour bien connaître, bien comprendre, analyser le marché, voir ses perspectives et ses difficultés financières, hein, j'entends bien sûr. Et puis après, trouver les clients. Et une fois qu'on les avait, ben, réunir tout le monde et remonter l'atelier.
C'est vraiment, y a un pivot que vous avez opéré pour pouvoir relancer cette entreprise. Sophie, est-ce que tu peux nous partager comment ça s'est passé pour toi pour la reprise de la manufacture de couleurs?
Oui, alors, ce n'est pas exactement la même histoire qu'Olivier, même si ça y ressemble quand même beaucoup. La seule différence, c'est que moi, ce n'était pas une entreprise familiale. En fait, moi, ça n'avait vraiment rien à voir avec ce que je faisais, puisque j'avais une entreprise, je faisais de l'ingénierie culturelle. Donc, je travaillais avec des artistes pour faire des collaborations avec des marques de luxe. Mais là où les histoires sont parfois belles, et je crois que cette masterclass, c'est aussi pour les gens qui souhaitent reprendre des entreprises ou en racheter, et on pose souvent la question, mais comment est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu as trouvé, comment est-ce que tu as trouvé cette entreprise? Et je dis souvent que dans l'entrepreneuriat, il y a aussi une part de chance, et ça a été le cas pour la manufacture, puisque donc j'avais mon entreprise d'ingénierie et je voulais absolument faire avec un de mes artistes des éditions d'œuvres d'art, et en particulier en céramique. Et donc, je sème un peu mes petits cailloux partout en disant, voilà, je suis à la recherche d'un atelier. Est-ce que quelqu'un connaît un atelier? Et au bout d'un moment, on met ces petits cailloux un peu partout. Et il y en a un qui revient en me disant, bon, bah, écoute, Sophie, il y a une entreprise qui fait de la très belle porcelaine, qui est en train de fermer. Elle est en liquidation judiciaire, tu devrais regarder. Moi, à l'époque, je ne sais pas comment on fait pour reprendre une entreprise à la barre du tribunal. Je regarde un peu les dossiers et je vois qu'il y a un atelier donc, dans le centre de la France, dans l'Allier. Je téléphone au maire de la commune pour avoir un petit peu d'informations. J'aime beaucoup cette anecdote, mais qui montre aussi ce qu'il faut faire quand on prend ce genre de décision. Mais donc j'appelle le maire de la commune. C'était un 20 décembre, qui me dit « Je suis à la chasse, rappelez-moi demain ». Ok, je vois un peu l'investissement qu'il avait pour cette entreprise. Je le rappelle le lendemain, et donc je pense qu'il s'agit vraiment d'un atelier avec quelques personnes, mais bon, je n'imagine pas encore ce qu'il y a derrière. Et donc, il me parle pendant 3 quarts d'heure, et au bout de 3 quarts d'heure, il me dit quand même, c'est dommage, tout ce patrimoine qui va se perdre. Et donc là, on revient sur ma formation en histoire de l'art, et notamment en histoire 18e, et il me dit, mais quand même, cette entreprise qui date du 18e siècle et de 1789. Donc là, ça fait tilt, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Et donc, je prends le train 3 jours plus tard, et je découvre donc une manufacture plus de 10 000 m² qui a plus de 200 ans d'existence, et avec des moules qui servent donc à faire nos pièces à perte de vue. Et là, moi, ce qui me séduit, j'ai pas encore rencontré les employés, donc j'ai pas vu tout le savoir-faire qu'il y a derrière. Mais en revanche, ce qui me séduit tout de suite, c'est la beauté des pièces, c'est la beauté des objets. Et la qualité en fait qui a derrière, pour le coup, que je sais reconnaître, et je me dis ok, il y a vraiment quelque chose à faire, et c'est comme ça que l'histoire commence.
Et quand vous l'un et l'autre, peut-être Olivier pour commencer, quand vous regardez un peu votre trajectoire depuis la reprise, alors Olivier ça fait 25 ans, Sophie plutôt 3 ans, non 2 ouais. ans. Deux, trois ans, donc évidemment le chemin n'a pas la même couleur et pas la même durée, mais si vous deviez partager, qu'est-ce qui a fait le succès de la reprise et là où ont été les principales difficultés?
La question est simple, la réponse l'est un peu moins. D'abord, c'est bien sûr avant tout une vision. C'est-à-dire quand on se lance dans une aventure comme ça, avant d'avoir de l'ambition, il faut déjà avoir de la vision. Et c'est une vision partagée me concernant parce que j'étais en reprise avec mon frère. Donc, quelque part, on était embarqués l'un envers l'autre et c'est lui qui me suivait. C'est-à-dire c'est moi qui ai eu l'idée d'aller chercher les clients sur Paris, partir plutôt sur de la mode, donc quelque chose de compliqué, hein. C'est-à-dire des micro-séries très colorées, un peu le travail que faisait ma grand-mère. D'ailleurs, elle avait eu un grand succès dans l'après-guerre avec la couleur et la mode. Et elle travaillait avec les plus grands, avec Alaïa, avec Saint-Laurent, etc. Et c'est vrai que mon père avait fait plutôt de l'administration, l'armée, la police, les pompiers. C'est ce qui a permis de sauver l'entreprise à un moment où toutes les entreprises ont fermé. Donc, du coup, j'étais reparti un petit peu sur ce côté complexe et on avait une vision partagée avec un engagement qui était vraiment de préserver les traditions. Ça, c'était extrêmement important, tout en étant dans l'innovation. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas avoir peur de faire des gants qu'on n'avait jamais fait. Alors, il y a toujours, on dirait, 5 doigts, mais pas forcément sur les moufles. Et quoi qu'il en soit, les matières, les matériaux sont très complexes et on nous demande parfois la lune et surtout la veille pour le lendemain. Donc, il faut aussi, ça m'amène à un deuxième point, c'est savoir s'adapter. Il faut vraiment avoir cette capacité d'adaptation qui est pour moi une force motrice. Ça permet de mieux répondre au marché et à tous ces défis, hein, parce qu'il y a des défis quotidiens, hein. Bien sûr, il y a toute une partie d'investissement, hein, c'est-à-dire investissement personnel, mais aussi financier. Il faut pouvoir avoir une vision, pouvoir aller dans la modernisation, à la fois des installations, à la fois des collections, préparer cette formation continue avec les équipes. Voilà. Et puis, dans les facteurs de réussite, je dirais qu'il y a cette expansion internationale, je vous en ai parlé, le fait que d'un coup, on a tous les Japonais qui viennent vers nous, tous les Américains qui sont restés, des Coréens. Donc ça, l'exportation, c'est avant tout, c'est une exploration. Donc, c'est explorer des nouveaux marchés, des nouveaux pays, la demande. Nous, on a lancé le gant tactile, c'est-à-dire qu'il fonctionne avec tous les écrans, il y a à peu près 10 ans. Vraiment, à un moment très tôt, on était parmi les premiers parce qu'on avait des clients en Corée et notamment un très, très, très gros client qui m'a dit « Moi, je vous achète tout si tout est tactile. Bon, » moi, il ne fallait pas me le dire deux fois. Hein. Le lendemain, tout était tactile. Il n'était pas question de manquer ce marché. Donc, tout ça, ça permet d'adapter son offre et bien sûr d'élargir sa clientèle. Et puis enfin, dans les facteurs de réussite, qui me semble important, ça peut être très long, hein, les listes, mais la culture d'entreprise. Je crois qu'on ne peut pas réussir un produit d'excellence sans embarquer avec soi l'ensemble de ses équipes. Et il faut maintenir cette culture, il faut qu'elle soit solide. Donc, ça passe par créer un environnement, savoir expliquer, prendre le temps. Et chaque personne chez nous, que ce soit là, on a embauché par exemple un jeune qui a 18 ans et qui va être à la fois coupeur et piqueur, parce qu'il y a une passion de couture. Et on lui explique tout dans les détails, alors qu'il découvre la ganterie. Hein. Mais bon, à Millau, on a une culture dans ce métier. Hein. Donc, il y a une candidature à l'UNESCO sur la sauvegarde des savoir-faire liés à la ganterie. Il y a un musée du gant. Donc, vous voyez, il y a une culture locale. Donc, ce jeune avait très envie de rentrer dans une entreprise. Et de l'autre côté, on a aussi embauché une personne qui a fait 20 ans de ganterie, qui s'est arrêtée pendant 10 ans et qui revient, donc qui est une aînée. Et elle, on l'embarque de la même façon, c'est-à-dire qu'on lui explique pourquoi on ne fait pas une collection spéciale pour le Black Friday, mais on va faire quand même quelque chose pour participer dans la notion de marketing et réaliser des ventes, comment on va faire une approche sur Noël, pourquoi on va aller sur un sport, pourquoi on doit faire un gant un peu plus complexe là et pourquoi il le faut pour demain. Donc tout ça, on doit l'expliquer. Et donc ça nous amène à toutes les difficultés du monde qu'on imagine. La première, c'est bien sûr la transmission. Ce sont des métiers où il y a très peu de gantiers en France et dans le monde. Donc la transmission, c'est notre souci principal, d'autant qu'on est en zone rurale et qu'il faut que les gens viennent s'installer sur le territoire. Donc il faut que le territoire soit aussi en capacité d'accueillir ces populations. Hein. Une personne qui vient travailler, ça peut être un couple, ça peut être une famille. Donc il faut que tout le monde puisse rester. La gestion des changements, ça a été souvent un problème moi dans l'atelier, c'est-à-dire expliquer que quand on fait tout en piqué anglais, qui est une couture, on va tout faire maintenant en surgé. Quand on a une coupe avec un seul morceau sur le gant, on va faire 2 morceaux parce qu'on va inclure dans le pouce et l'index un cuir tactile. Donc ça oblige à faire un puzzle sur le gant, donc ça casse tout ce qui a été appris jusqu'à maintenant. Quand on a, voilà, et donc ça, parfois c'est un peu compliqué, de la même façon que la transmission. Nous, c'est une transmission formelle, donc du coup, c'est dans l'atelier quelqu'un qui va expliquer à un autre, c'est-à-dire le maître apprenti avec l'artisan. Donc, il faut qu'elle ait envie d'expliquer, il ait envie d'expliquer. Et donc, il y a parfois des barrières. Là, on a embauché un garçon dans une country où il n'y a que des femmes. Et donc, du coup, en couture, donc il fallait expliquer, mais aucun problème, évidemment. Mais aujourd'hui, tout est beaucoup plus facile. Il faut se mettre, il y a 20 ans plus tôt, tout était compliqué. Nous, on a fait des opérations, la main qui répare, de sensibilisation, par exemple, de personnes qui viennent de l'étranger et qui ont des difficultés absolues à s'en sortir et à travailler. Et là, on les a sensibilisés et on a réussi à embaucher, nous, chez nous, 2 personnes. Donc, on en est très fiers. Et puis, voilà, dans les difficultés, c'est aussi les nouveaux marchés. Il faut bien les comprendre. Il y a des réglementations, il y a des douanes, il y a des... Donc tout ça c'est compliqué, hein. Il y a toute une pression là-dessus où on doit bien gérer tout ça. Et en parlant de pression, il y a bien sûr la concurrence, parce qu'il n'existe pas un métier sans une concurrence, donc un marché. On vous incite à toujours faire moins cher, à produire toujours plus vite, toujours plus. Donc cette ultra-consommation, nous on n'est jamais rentré dedans. Et moi je dois dire que j'ai décidé de vivre entre Paris et Millau parce que je voulais garder cette liberté. Cette liberté, je voulais la donner à l'entreprise. Donc, on a beau me raconter tout ce qu'on veut, à partir du moment où moi, je vois le bien fondé pour l'entreprise, c'est ma priorité absolue. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je peux dire avec grande fierté. C'est surtout, ne vous laissez pas prendre dans certains jeux. Gardez votre authenticité. Allez vers là où vous avez un fondamental qui vous semble cohérent. Suivez parfois, ça on l'oublie trop, votre instinct. Et donc, du coup, là-dessus, nous, on a fabriqué les choses qu'on voulait fabriquer, on a refusé ce qu'on ne voulait pas fabriquer, on a essayé de garder un peu une liberté. Alors, j'avoue que c'est pour ça que je le mets dans les difficultés, hein. Ça fait partie des choses les plus difficiles. La concurrence, elle est présente partout et on vous incite toujours. Et puis, à un moment, vous dites, mais si tout le monde est moins cher, pourquoi nous, on est si cher? Et en plus, moi, dans mes plaisirs personnels, c'était quand je prenais le métro à Paris ou dans la rue ou même à Millau, de voir des gens qui portaient nos gants. Quand on voit là aujourd'hui toutes les stars qui nous sollicitent, c'est 25 ans de travail. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est du sérieux, c'est d'être hyper rapide aux demandes. Voilà. Donc du coup, bien sûr, les ressources font partie des points importants, des difficultés. On a toujours une pénurie de ressources. Les matières augmentent. Les machines, il faut les entretenir. Il faut renouveler un parc. Il faut avoir des personnes qui ont les compétences. Donc, il faut les acquérir. Donc tout ça, en fait, c'est des entreprises où l'humain reste quand même au cœur. Et les difficultés, on va dire, liées à l'humain sont tout à fait naturelles et on peut vraiment les surmonter.
Il y a des choses qui font écho pour toi, Sophie ?
J'ai rien à ajouter. C'était parfaitement exprimé. Merci, Olivier. Tout fait écho. Je partage déjà à 100% sur les clés de la réussite. Moi, c'est pareil, la question de la vision d'entreprise et de la transmission des valeurs et du projet était fondamentale. Nous, on est quand même sur un secteur, la porcelaine, qui a énormément souffert également dans les dernières décennies, notamment depuis les années 90. Quand j'ai repris la manufacture, je crois qu'ils en étaient à leur 7e faillite. Donc tout ça, ça marque évidemment socialement à l'intérieur de l'entreprise, parce qu'on reprend avec des employés qui sont marqués par ces faillites, qui ont perdu confiance en l'entreprise et en sa vision et en sa capacité aussi à apporter les choses. Ça marque aussi le territoire. C'est-à-dire que nous, après, on a des problématiques aussi de financement, parce qu'à partir du moment où vous en êtes à la septième faillite, bah, évidemment, vous retournez voir les banques ou même la commune, le département ou la région. On vous dit, pourquoi est-ce que vous allez faire mieux que les autres? Ce qui est toujours un sujet. Moi, l'entreprise a moins de maturité que celle d'Olivier. Donc, j'ai encore aussi à faire les preuves pour tout ça, et donc à batailler encore un peu plus. Après, on a en effet toutes les difficultés qu'on peut avoir qui sont liées à l'humain et surtout à l'intelligence de la main. Moi, je trouve que ce qui est le plus difficile dans une manufacture, c'est de réussir à conserver cet aspect manuel, nous, on a plus de 14 étapes de fabrication dans la porcelaine, et sur ces 14 étapes, on a des mains qui se posent, donc c'est des, ce sont des gens qui sont derrière, on est très peu industrialisé. C'est aussi ce qui fait notre force, puisque ça nous permet de faire des objets qui, pour moi, sont des objets vraiment de luxe dans le sens que dans le sens où ce sont des objets qui prennent du temps où il faut avoir en effet un savoir-faire qui est extrêmement spécifique. On n'est pas en train de parler là d'assiettes qu'on peut faire sous pression à la chaîne. Là, on parle vraiment d'objets où on est obligé de revenir travailler au pinceau chaque objet. Et c'est vrai que moi, ce qui est le plus difficile à mettre dans la balance, c'est la mesure entre le temps et la rentabilité. Comment est-ce qu'on réussit à le mesurer? Qu'est-ce qu'on met dans la valeur temps? Est-ce que c'est juste en effet la production? Est-ce qu'il y a tous les investissements, évidemment, qui sont derrière? Mais aussi la question de la transmission. Nous, c'est un coût extrêmement important dans la manufacture. Olivier soulevait très justement un autre point dans la transmission, mais c'est tout ce qui est aussi conduite du changement. C'est-à-dire que vous allez avoir un artisan qui va très bien savoir faire quelque chose, sauf que nous, on va avoir une demande du client qui va le forcer à casser un petit peu ses habitudes. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour lui apprendre tout ça? Comment est-ce qu'on fait pour changer ses habitudes? Lui en donner une autre, qu'on n'a pas forcément. Hein. D'ailleurs, parfois, on nous demande de faire des choses, on y a... Ok, c'est très très beau, ça nous plaît beaucoup, mais on ne sait pas forcément exactement comment on va réussir à le faire. Donc, on a à la fois une période qui est presque de R&D qui est derrière, d'apprentissage sur nos pièces, et après d'analyse. Tout ça, finalement, on est toujours un peu dans le flou chez nous parce que c'est un temps incompressible, mais qui peut aussi évoluer. Voire même se multiplier. Quand on a des clients, tu le disais très, très justement, Olivier, qui demandent tout la veille pour le lendemain, comment est-ce qu'on fait? Et en plus, quand on est une jeune entreprise, pour essayer de satisfaire des clients qu'on vient juste de prendre avec nous et qu'on a évidemment envie de satisfaire.
C'est en effet très en écho vos deux témoignages et donc ce qui ressort évidemment fortement parce qu'on parle ici d'entreprise, de savoir-faire, c'est cette question de la transmission, du renouvellement des savoir-faire et aussi de t'entendre Sophie peut-être plus spécifiquement sur quels sont les enjeux vraiment liés particulièrement à la question de la transmission et du renouvellement des savoir-faire. Peut-être Sophie pour commencer.
Alors nous, ça a été, c'était central, hein, évidemment, dès le début, mais on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'il y avait des savoir-faire qu'on avait à l'intérieur de la manufacture et certains qui nous manquaient. Donc, il y a une question, pas que de transmission, mais déjà de sourcing. Comment est-ce qu'on fait? Donc, moi, je me suis fait aider quand même par pas mal d'experts. Donc, j'ai fait venir beaucoup de gens dans les manufactures. Je suis allée en visiter beaucoup. On a fait aussi partir des gens de la manufacture pour aller voir d'autres manufactures pour comprendre exactement comment ils faisaient. Et à l'intérieur de la manufacture, quand j'ai repris, il y avait 7 employés. 7 employés qui avaient entre 15 à 25 ans d'expérience, donc qui détenaient vraiment un savoir-faire, mais qui étaient dans l'incapacité de les transmettre. Donc, il a fallu les soutenir. Dans le sens où leur dire ok vous n'êtes pas forcément obligé de passer par le verbal en fait pour transmettre, ça peut être juste une question de mimétisme, vous pouvez juste montrer à l'autre personne qui est à côté de vous comment vous êtes en train de faire et ça se passe pas forcément par les mots, il faut juste aussi un petit peu dédramatiser la question de la transmission comme si on était dans un rapport de professeur à élève, c'est pas forcément le cas. On a fait revenir aussi des retraités de la manufacture, notamment un modeleur pour nous qui est un métier central dans la manufacture puisque ce sont les personnes qui fabriquent les moules. C'est un métier en tension en France. Il y a une promotion qui sort tous les 4 ans de modeleur avec une dizaine de personnes. Donc clairement, on a un vrai sujet de formation à ce niveau-là. Donc on a un retraité, Christian, qui est venu à la manufacture et qui a aussi accompagné en fait trois nouveaux modeleurs pour leur apprendre le métier. Et après, nous, on fait aussi un peu de manière empirique, hein, c'est-à-dire qu'on analyse beaucoup, tout le temps, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on a bien fait, où étaient les réussites, les défauts. Et on discute avec, autour de la table, 5 ou 6 personnes à chaque fois. Donc, on va avoir un modeleur, mais aussi la personne qui va être au coulage, la personne qui va être à la finition et qui va nous dire sur un nouveau produit, puisque 90% de notre production, ce sont des nouveaux produits. Donc, il va nous dire, OK, nous, on a eu un problème qui est à ce niveau-là. Et c'est peut-être... Alors, le problème va venir du coulage, mais c'est peut-être, en fait, le modelage qui va leur dire d'où vient le problème. Donc, on a à la fois des questions d'apprentissage qui sont au cœur de nos métiers, d'expertise. Après, dans la transmission, qui est en effet une transmission un peu classique, mais aussi de co-création, j'ai envie de dire, à l'intérieur de la manufacture. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément juste un savoir qui se transmet de bas en haut, mais finalement qui peut être plugué avec d'autres savoirs un peu périphériques et qui font que bah, finalement, le savoir-faire qui est à la manufacture de couleuvre ne va pas être le même que dans une autre manufacture, alors que potentiellement, on peut faire les mêmes produits.
Passionnant. Olivier ?
Évidemment, je rejoins énormément de points également. Nous, d'abord, il y avait un contexte de transmission. Moi, j'arrivais avec un nouveau regard et j'avais d'un coup beaucoup de commandes. Puisque je suis allé chercher les commandes, je les ai récupérées. Donc d'abord, il fallait développer, mais développer, on va dire, prendre un dessin et l'adapter, c'est déjà quelque chose de complexe. Mais à ce moment-là de la reprise, c'est quelque chose où tout le monde l'a fait et on sait, même le client était prêt à avoir des zones d'écart sans difficulté. Donc quand on a reçu les commandes qui sont devenues importantes, donc le contexte, c'est que j'avais une usine qui était grande, qui accueillait normalement 350 personnes et qui était avec 0 personne. Donc, du coup, il a fallu recruter et donc aller chercher tous les anciens. Donc, c'était plutôt des personnes qui n'étaient pas très loin de la retraite. Et tout le monde, donc, on a pris 3-4 personnes, les nécessaires, j'ai envie de dire. Et là, on a lancé ces productions. Donc, c'était quand même un peu tendu parce que il fallait produire. Alors, nous, on n'a qu'une saison. Ça fait partie des grandes difficultés de notre métier. C'est que globalement, on ne travaille que l'hiver. Alors, bien sûr, on ne travaille pas que l'hiver, mais on vend beaucoup, principalement en hiver. Et donc, du coup, on a fabriqué. Et donc, ça nous a mené sur les méthodes. Comment on allait avoir un recrutement plus important dans une époque. Donc là, on se met en 2000. En fait, on a vraiment lancé un plan de recrutement massif en 2005. Mais avant, on avait une usine qui était ancienne, qui a été construite en 1950. Et il fallait qu'on embauche du monde pour répondre à des demandes très, très pointues, ultra qualitatives, partout dans le monde. Et donc, du coup, ce sont nos aînés qui, on a passé des annonces. On était en plus, à ce moment-là, il y avait très peu de personnes qui étaient intéressées par les métiers de la main, par les métiers d'art. Ça n'avait pas le succès que ça a aujourd'hui. Et donc, du coup, quand on envoyait une demande de candidature, mais on recevait... vous savez, quasiment zéro CV, quoi. Donc, du coup, c'était quand même très problématique et on y est quand même arrivé. Et alors, je me suis dit, ce qui est important, c'est que là, il faut qu'on refasse notre atelier. Il faut qu'on l'adapte à notre niveau, à notre taille. Et donc, on a investi en 2005, on a refait l'atelier à l'ancienne avec les murs à la chaux, avec évidemment des chauffages au top, de la lumière au top, etc. Et tout ça pour essayer de faire un très beau produit et permettre surtout à nos artisans d'avoir envie de rester et d'avoir tous les outils et l'ergonomie pour faire un travail excellent. Et donc voilà, et donc c'est ce qu'on a fait. On a refait en 2005 l'atelier. Et j'avoue qu'à partir de là, on a pu plus facilement former et des personnes qui arrivent de toute la France. Notre directrice d'atelier aujourd'hui est même américaine, donc elle était venue à Millau parce que là aussi on revient de l'environnement des villes, il y avait des écoles avec des classes bilingues, dès la primaire, dès le primaire. Donc ça, c'était génial. C'est pour ça qu'elle s'installe à Millau. Et elle cherche un travail, elle a entendu parler de nous, et elle est venue, et donc on l'a embauchée. Donc on a des profils plutôt jeunes aujourd'hui. On a une aînée hein, qui était de l'époque de ma grand-mère et qui est toujours présente. Et elle dit souvent dans la presse, on la voit souvent à la télé, hein, elle dit qu'elle ne sait pas quoi faire d'autre et que de toute façon, il n'est pas question qu'elle s'arrête. Et donc ça tombe très bien parce qu'elle a du talent et elle a transmis presque à 31 personnes ou 30 personnes, dont la dernière était justement Zahira avec la main qui répare, qu'on a pu embaucher. Et puis bien sûr, on a impliqué, eh ben, je l'ai déjà dit, je le redis, mais c'est tellement important, on a impliqué vraiment toute l'équipe. C'est-à-dire que l'atelier ne fait qu'un. Et pourtant, on est sur un travail un peu d'artisan indépendant. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un travail d'usine. Comme ce sont des micro-séries, une personne commence quelque chose, une autre va faire autre chose, une autre a son propre produit. Il y a des ateliers où on démarre, l'artisan démarre le produit et le termine et peut même le signer. Bon, nous, ce n'est pas le cas, mais on travaille avec des personnes qui sont aussi encore un peu à domicile. Je pense notamment au travail de coupe et des personnes qui sont tout le temps en atelier et des brodeurs qui sont à l'extérieur et des anoblisseurs. On peut vieillir les cuirs. Enfin, dans toutes ces problématiques de nouvelles demandes, c'était par exemple user des gants neufs. Ça, dans l'atelier, quand on leur a dit qu'il faut que tous les gants soient presque déchirés, ils ont dit mais c'est n'importe quoi. Donc, il faut le faire comprendre tout ça et impliquer les équipes, c'est idéal pour renouveler, on va dire, permettre de transmettre plus facilement. Et donc, tout ça a eu un impact, bien sûr, sur l'entreprise, un impact positif, hein, parce qu'il y a une culture d'entreprise, ça amène de la productivité. Je reçois des messages parfois en me disant j'ai pensé à ça dans le week-end, j'ai vu cet article, j'ai regardé cette petite vidéo, c'est génial, il faudrait qu'on fasse pareil. Et donc tout ça amène de l'innovation, ça implique les équipes à petit niveau parce que je dois avouer que idéalement j'aimerais les prendre tous et qu'on aille faire des voyages, qu'on aille visiter des entreprises, mais ça on n'y est pas arrivé parce qu'il y a une distance, parce que c'est pas si facile. Mais enfin, il faut vraiment toujours garder cette vitalité des savoir-faire qu'on ressent sur la qualité de nos produits. Moi, j'ai toujours dit à tout le monde, si vous ne savez pas, échanger, trouvons des solutions, mais tout doit être parfait. Donc voilà, on a cassé ce système de travail à la chaîne. Parfois, j'aimerais bien que ce soit un peu plus rapide, mais on fait comme on peut. L'essentiel, c'est que tout fonctionne. Voilà. Donc la formation, bah, chez nous, c'est ça. On est très peu. Hein. On a 8, 9 personnes dans l'atelier hein, qui travaillent. Donc ce sont vraiment des artisans d'art. Mais il faut savoir que ils ont de quoi être fiers parce qu'ils sont détenteurs d'un savoir-faire local, traditionnel, important. Et ce qu'ils savent faire, il y a très peu de personnes dans le monde qui savent le faire. Et moi, je dis toujours que Maison Fabre est une entreprise familiale, mais la première famille de Maison Fabre, ce sont ses artisans. Parce que c'est eux qui sont capables de faire des miracles. Et après, nous, ben, quand on est chef d'entreprise et qu'on reprend, qu'on fait une reprise sur un métier et sur une maison, ben, on a envie de toujours plus. On a envie de répondre à tout. Et c'est ça, c'est un point extrêmement important qu'il faut toujours garder en tête. Tout n'est pas possible. Mais il vaut mieux se dire, ne reportons rien, allons-y, il ne faut rien reporter, mais il faut savoir dire non quand la difficulté, elle est trop importante. Voilà, ça évite de se griller, ça évite de se stresser, et le grand luxe de toutes nos entreprises, c'est travailler en paix. Alors j'aime autant vous dire qu'on ne travaille jamais en paix. Mais parfois, on se dit, tiens, là, on est un peu en paix, c'est pas si mal. Et comme Laure, tu le rappelais, il y a une candidature, voilà, enfin, je l'avais évoqué aussi, il y a une candidature à l'UNESCO dont je suis à l'initiative. Donc en fait, moi, je suis parti d'un constat très simple avec les élus lors de la conférence des maires à Paris en 2015, donc ça remonte un petit peu, et je leur avais dit, voilà, le musée Soulages vient d'ouvrir, ils ont eu 700 000 visiteurs en un an, nous, à Millau, on a un musée du gant depuis toujours, et on a 30 000 visiteurs par an, donc il y a quand même un problème. On avait 67 ganteries, il n'y en a plus que 4, bientôt, il n'y en aura plus que 2. Les personnes qui ont travaillé dans la ganterie, ben, c'est 2, 3 générations plus haut. Bon, ben dans 2, 3 générations plus bas, personne ne saura. Donc, du coup, on doit faire quelque chose. Et sauver nos métiers, c'est la priorité, puisqu'on est dans des métiers en voie de disparition. Et donc, du coup, la première chose qui a été faite, ça a été le lancement d'une association qui réunissait l'ensemble des professionnels du cuir sur le département de l'Aveyron. Donc, on l'a appelé le Pôle Cuir. J'en ai été président pendant 3 ans. Et c'était 18 entreprises pour à peu près 45 millions d'euros de chiffre d'affaires et 500 employés. Et ça a permis d'abord de présenter les uns et aux autres. Et personne ne se connaissait, personne ne se fréquentait. Quand Sophie, tu dis que tu allais visiter des ateliers dans la céramique et tout, bah, alors autant te dire qu'en ganterie, c'est impossible, hein, parce qu'un gantier ne supporterait pas qu'un autre gantier vienne voir ce qu'il fait chez lui. Donc du coup, il fallait partir de ce principe-là, c'est qu'on était tous seuls face à nous-mêmes. Donc là, on s'est unis et ça a permis de mutualiser. Quand les réparateurs venaient dans des campagnes, eh bien, au lieu de payer 300 euros par déplacement par entreprise, on faisait 2-3 entreprises pour 300 euros divisé par 3. Ce sont des détails, mais tout ça compte. Et puis surtout, ça a amené ces visites d'entreprise qui sont essentielles pour comprendre comment ça se passe chez l'autre, de par les chefs d'entreprise, mais aussi si on peut embarquer avec un coupeur, une couturière, un artisan, etc. Parce que là, du coup, il comprend tout beaucoup plus vite. Donc, du coup, c'est ce que nous avons fait. Le pôle cuir, ça a été le premier lien d'union. Et puis après, j'ai créé en 2018 une association qui s'appelle Sauvegarde du patrimoine vivant immatériel du pays de Millau. Et l'idée, c'était d'unir la filière sur son bloc complet, à savoir les éleveurs, 1650 exploitations d'éleveurs de brebis en Occitanie sur 6 départements et qui sont liés à notre métier, les transformateurs de matières naturelles, je pense à la laine et au cuir, et puis bien sûr les gantiers. Et donc du coup, c'est ces trois pans, ce triptyque qu'on veut défendre, protéger pour nos savoir-faire, au niveau français avec le ministère de la Culture et au niveau international avec l'UNESCO. Et donc, on est dans une candidature au patrimoine culturel immatériel. Voilà, c'est un long travail, mais qui est formidable et qui a permis, nous avons imaginé 17 mesures de sauvegarde, ce sont des actions pour pouvoir créer des projets qu'on a tout imaginé. Donc la main qui répare pour aller accompagner les personnes éloignées de l'emploi, une chaire sur la bientraitance animale avec une école privée, l'école de Purpan à Toulouse. On a fait les petits tabliers des gantiers, c'est pour expliquer à toutes les écoles et aux maisons de retraite. Et voilà, et l'idée, c'est vraiment d'inclure et d'investir l'ensemble des populations, mais aussi de permettre à des entreprises de venir s'installer sur le territoire et donc de créer un vivier qui permettra à chacune et à chacun de pouvoir récupérer quelqu'un qui ne reste pas chez l'un pour revenir chez l'autre. Et donc, on a besoin de viviers, ça fait partie des challenges importants. Dans la transmission, on a besoin de ces viviers pour pouvoir avoir des personnes qui viennent travailler.
Merci beaucoup, Olivier. On a des questions absolument passionnantes dans le chat. On en a 3, notamment, là, à ce stade. Donc, si vous arrivez à y répondre chacun de manière assez concise, ce serait formidable. Une première question sur est-ce que vous pouvez partager chacun vos objectifs d'évolution et de progression et dans quelle mesure tendriez-vous à devenir des structures artisano-industrielles par volonté ou par obligation et donc sous-entendu par obligation de rentabilité.
Ça c'est une bonne question, je suis en plein dedans. J'écoutais aussi tout à l'heure Olivier qui disait qu'il fallait aussi faire attention à ce qu'on faisait et ce qu'on produisait. On a peut-être une petite différence quand même sur la concurrence, c'est que sur la céramique, notamment la porcelaine, on a une grosse concurrence. On a une grosse concurrence évidemment du Made in China, mais aussi en Europe, et avec des différences de qualité, mais aussi de perception. C'est-à-dire que autant pour un objet, on n'a pas trop de prix de référence, autant sur une assiette, c'est très difficile pour un client de comprendre la différence entre une assiette qui vaut 5 euros et une assiette qui sort de chez nous qui en vaut 80. Alors tu me diras Olivier, c'est peut-être la même chose avec les gants, et il faut moi la première chose que je dis c'est qu'il faut toucher les pièces. Ce problème c'est qu'à l'heure du digital, comment est-ce qu'on fait quand on peut pas les toucher et que quand tu as 2 photos qui sont sur internet, une qui vient d'IKEA et une de la manufacture de Couleuvre, on voit pas forcément du premier coup d'œil la différence. Donc j'ai pas vraiment de réponse à cette question. En plus, une manufacture, c'est justement la transition entre l'atelier et l'usine. Nous, on fait de la petite et moyenne série, mais ça veut quand même dire qu'on fait 2000 à 5000 pièces sur des unités. Donc, on n'est plus tout à fait sur du travail complètement artisanal qu'on peut avoir chez un artisan céramique. Et en même temps, on n'est pas tout à fait de l'usine, puisqu'on n'a pas, on n'a pas nos pièces qui sont faites sous pression. Très certainement, la solution va être une solution un peu médiane, c'est-à-dire qu'on va garder une partie vraiment très artisanale sur des objets précieux et sur lesquels on aura beaucoup de travail artisanal et de la main qui va perdurer. Et une autre partie, évidemment, plus rentable, sur lesquelles on va un petit peu plus industrialiser nos process. Et en effet, à la fin, la question, c'est la question de la rentabilité. Comment est-ce qu'on fait pour, on l'espère, durer sur le long terme?
Oui, nous, de notre côté, on n'est jamais... Enfin, je n'ai pas vraiment l'impression qu'on soit trop cher. Mais cher, tout est relatif, hein, évidemment. Mais en fait, on adapte le prix en fonction de la matière première et du travail. Et on reste toujours raisonnable. Malgré tout, oui, la concurrence, elle est énorme. Tout vient d'Asie. Donc, du coup, on se retrouve avec des marques connues et reconnues en France ou en Italie ou qui sont sur le marché, c'est-à-dire présentes dans les grands magasins où nous avons nos stands, aux Galeries Lafayette, au Bon Marché ou ailleurs. Et il faut jouer avec ça. C'est-à-dire qu'elles ont des prix, et ces marques ont des prix beaucoup moins chers. Ça peut être du simple au triple. Hein. Et on est collé, on a les stands qui sont collés. C'est-à-dire que le client, d'un coup, il est sur nous, il voit un gant à 260 €. Et à côté, il y a un gant avec 95 € avec une promotion moins 15 si vous l'achetez tout de suite en caisse. Donc, et au milieu, un à 110. Donc, du coup, c'est vrai qu'il faut savoir expliquer. Donc là, le premier défi, bah, c'est d'expliquer. Il va falloir expliquer à chaque personne qui vient dans le magasin pourquoi il y a ce prix. Et c'est des challenges très, 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 très compliqués. Hein. Nous, aujourd'hui, 25 ans après, on y arrive assez facilement parce que la marque, elle est hyper connue à Paris. Donc, les gens, ils viennent, ils savent que voilà, s'ils se font plaisir, c'est garanti à vie. C'est toujours, s'il y a un souci, n'importe lequel, ça peut être réparé. On répare même les gants des autres. Donc, du coup, ça, les gens, ça les rassure. Au lieu d'acheter une paire qui va être… Moi, j'ai une cliente qui me disait l'autre jour, j'ai acheté une paire d'une marque concurrente, dont je ne dirai pas le nom, et la vôtre, ben, je l'ai toujours, elle est magnifique. L'autre, au bout d'un an, elle était foutue. Elle était pas belle, le cuir, c'était un peu craquelé. En fait, c'était… Voilà, donc du coup, la qualité P, évidemment, c'est un effort. C'est un effort au quotidien parce qu'on va manquer des marchés, on va louper des opportunités. Nous, dans les difficultés qu'on avait eues aussi sur l'arrêt des savoir-faire, hein, il y a un moment quand je parlais de sauvegarde d'urgence, hein, c'est que vraiment, il n'y avait plus de savoir-faire. On avait fait appel à des artisans qui étaient au Portugal en travail à domicile, notamment pour le cousu main, parce qu'il y a une tradition là-bas que nous avions chez nous, mais que nous n'avons plus. Et donc, du coup, on a continué longtemps à travailler avec eux. C'était vraiment c'était un super combo d'être avec eux. C'était à la fois sympa, ils travaillaient bien, c'était rapide, c'était en Europe. Et une deuxième usine en Hongrie où mon père travaillait avec le père, moi, je travaillais avec la fille. Et c'est un complément de production. Alors bon, ben, nous, ça nous permet, par exemple, c'est pas forcément sur baisser les prix parce que ça reste cher, c'est moins cher probablement qu'en France, mais ce n'est pas des grosses différences. Vous savez, le travail en Europe, il est quasiment, maintenant, il se tient, bon, plus ou moins. Mais c'était surtout d'avoir plus de possibilités de fabrication. Et voilà, donc aujourd'hui, on essaie de… je suis quasiment sûr qu'on n'est pas du tout industriel, mais on est plus qu'artisanat. C'est-à-dire que oui, on fabrique et on essaie de vendre 8 à 9 000 paires de gants par an, donc c'est quand même énorme. Mais ce n'est pas d'industriel, parce que l'industriel, je peux vous garantir, c'est d'autres quantités. Chez nous, petite série. Je fais une petite aussi aparté, parce que du coup, je suis allé regarder les conversations. Et pour répondre à Maxime, le site signale une erreur de serveur. Nous sommes en train de changer de site aujourd'hui. Donc, normalement, ce soir,
bon moment.
Matin, on aura un nouveau site. Donc, je viens de le signaler à notre développeur qu'il n'y ait quand même pas de message d'erreur. Voilà, petite parenthèse. Merci de me le signaler.
Non, mais je pense que dans vos deux réponses, Sophie et Olivier, on a entendu la grande spécificité de l'échelle de la manufacture. Voilà, c'est ni de l'artisanat, ni de l'industrie. Et c'est vraiment un objet et un univers à part entière. Autre question très intéressante. Est-ce que vos structures mettent en place des actions culturelles dans vos territoires et alentours pour permettre aux personnes que ce soit les habitants, dans les communes, le monde associatif, de s'approprier ce savoir-faire et donc de permettre de créer des vocations.
De mon côté, nous, Maison Fabre est ouvert au public, c'est-à-dire individuel ou groupe, depuis toujours, on peut venir visiter. On participe à énormément d'événements et d'animations locales. Bon, peut-être pas sur des marchés, mais dès qu'il y a quelque chose, on est là. Et en tout cas, on est toujours disponible. Et après, personnellement, par rapport à la candidature UNESCO, je fais en sorte que ce que l'on applique pour Maison Fabre puisse aussi se faire sur l'ensemble de la filière et tous les gantiers de Millau, et pas que de Millau d'ailleurs. Et donc, du coup, on a relancé les célébrations de Sainte-Anne, qui était la patronne des gantiers mégissiers. Donc, on fait un parcours dans la ville, on essaie de faire rentrer les populations, on fait des événements, on participe à des festivals. Et surtout, on a un gros, gros projet qui est génial, c'est le lancement de la première école, pour apprendre à fabriquer des gants. Donc, il n'y a pas d'école de ganterie en France, il n'y en a jamais eu. Et donc, ce serait un CAP maroquinerie avec donc une option ganterie et mégisserie à y être pour rester fidèle à notre candidature. Et donc, du coup, ça serait avec le lycée professionnel de Millau et puis, bien sûr, les entreprises. Donc, il y aura de la théorie et de la pratique, un plateau qui va mettre un temps à se monter. Et puis, il y aura une deuxième école qui devrait ouvrir. C'est une formation, cette fois-ci, c'est un master. Et là, on est plus sur comment transformer des matières naturelles locales dans une idée de circuit court sur la mode et notamment liée à nos activités, c'est-à-dire tout ce qui touche au cuir, aux laines, aux différents tissus que nous fabriquons sur zone. Et donc là, ça sera bac plus 2 à 4.
Sophie, sur les actions culturelles, est-ce que...
Un peu pareil, nous, alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a un magasin d'usine qui est ouvert et qui permet aux gens de venir voir les productions de la manufacture et de visiter la manufacture tous les week-ends. Donc les gens adorent ça. On ouvre aussi pendant les journées du patrimoine, donc ça c'est sur la partie visite. Après, nous on a fait beaucoup de partenariats avec les écoles localement, donc on a un partenariat avec le lycée d'Yzeure hein, qui est à côté de Moulins, donc qui est spécialisé dans les arts du feu. Donc on a une quarantaine d'étudiants qui viennent tous les ans par semestre pour travailler sur des sujets bien spécifiques, soit de développement produit, soit de scénographie aussi sur les métiers de la céramique. On fait aussi des partenariats avec les écoles primaires localement qui viennent faire des ateliers à la manufacture et des visites. Donc, on a fait ça avec la communauté de communes, notamment. On a fait un partenariat aussi avec l'Université de Clermont-Ferrand pour avoir des étudiants en sociologie, histoire et histoire de l'art qui viennent faire des mémoires aussi, ou une partie en fait de leur recherche à la manufacture. On a en ce moment trois étudiants qui sont d'ailleurs là en train de regarder nos archives. Donc oui, on essaye de d'ouvrir le plus possible la manufacture. Et puis je crois que ce qui fonctionne bien, c'est aussi la communication, tout simplement. Tout à l'heure, Olivier, tu parlais de marque, mais quelque part d'avoir aussi une belle marque, une belle qualité, et que les gens en parlent, et de voir que c'est hyper important, mais localement, on va être sur le bulletin communal, puis dans le journal local, puis dans le journal départemental, et ainsi de suite jusqu'aux journaux nationaux. Bah, ça fait aussi déjà la fierté des gens du coin, et aussi ça attire des nouvelles personnes. Moi, sur le mail contact de la manufacture, j'ai, je sais pas, une cinquantaine de mails par mois. Me pose des questions sur ça. Donc, je me dis que ça doit quand même titiller quelques personnes.
Alors, je vous lance un défi, parce qu'il nous reste 3 minutes pour répondre à une question qui pourrait faire l'objet d'un webinaire pendant 1 heure. Et donc, le défi, c'est peut-être d'y répondre, je ne sais pas, avec 3 mots-clés. Et donc, c'est la question du financement. Quelles conditions à remplir pour débloquer des fonds? Donc voilà, je vous propose, selon votre inspiration, d'arriver à répondre dans les temps impartis.
Alors, je vais déprimer tout le monde, mais CAPEX. Il n'y a que ça pour débloquer des financements. CAPEX et déprimant. Sinon, après, ça va. On parle de financement, hein. C'est pas la même chose que le chiffre d'affaires, pas pareil.
Nous, on est enfant familial, hein, donc. Mais je dirais que la première chose, c'est déjà taper aux bonnes portes. Et parce qu'en fait, tout le monde peut vous raconter tout ce que vous voulez. À la fin, ça marche jamais. Donc, il faut taper aux bonnes portes. Et puis, on en revient toujours aux mêmes choses. Il faut avoir un projet, il faut savoir le vendre, l'expliquer. Il faut se déplacer. Il y a du réseau, hein. C'est extrêmement important. Mm-hmm. On en a très peu parlé, mais parmi vraiment les points importants, c'est de reprendre une entreprise, c'est de garder ce réseau et d'aller voir le plus de professionnels, d'aller voir le plus de clients, d'essayer de créer autour de soi tout un écosystème qui fait que après, ben, une chose en amène une autre. Voilà. Donc, le financement, c'est la clé. On a tous besoin vraiment d'avoir une entreprise saine. Être à la direction d'une entreprise, ce sont des coûts très importants, avec beaucoup, 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 beaucoup de charges. Et donc, voilà, donc il faut l'avoir en tête. Ce n'est pas que vendre un produit. C'est un produit, derrière, il y a plein de charges, plein de dépenses et des aléas en permanence. Mais ça vaut la peine. Ce sont des challenges qui, quand ils sont réussis, et ils le sont assez souvent, méritent d'être faits. Moi, je vous dis, j'ai...
T'as triché, on avait dit en trois mots.
Ah, pardon. C'est pas en trois mots, je sais pas.
Non, mais...
Mais c'était très bien résumé, c'était une belle conclusion. En tout cas, un grand, grand merci à tous les deux. C'était vraiment très riche d'entendre vos expériences, de croiser vos regards, il y avait beaucoup de résonance quand on vous écoutait. Et donc voilà, on souhaite que ça puisse inspirer d'autres repreneurs pour faire vivre beaucoup d'autres belles manufactures en France. Un grand merci Sophie, un grand merci Olivier.
Merci pour votre écoute et à très bientôt pour explorer ensemble les chemins de l'entrepreneuriat de savoir-faire dans les territoires.